Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler de sa prison, des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples. Par eux, lui demanda, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui que je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allé regarder dans le désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous donc allé voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne s'est levé le plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Acclamant la parole de Dieu. Le passage de l'Évangile nous informe que Jean le Baptiste se trouve en prison. Hérode Antipas l'avait fait emprisonner en raison des reproches que Jean, ce dernier, l'avait condamné le mariage adultérin du roi avec la femme de son frère. Il devait maintenant payer pour son audace. Mais telle était la personnalité de Jean. Il ne craignait personne. Quand il fallait dénoncer le péché et dire la vérité, rien ne pouvait l'arrêter. De sa cellule de prison, Jean reçoit des nouvelles de Jésus. Et ce qu'il apprend le rend perplexe. Ses disciples lui disent que Jésus est d'une bonté extraordinaire envers les gens. Comme Jésus pourrait-il accepter les hommes aussi facilement? Ne voit-il pas qu'ils sont tous pécheurs? Jean s'attendait à un ministère beaucoup plus musclé de la part de Jésus et il avait beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi Jésus était si doux avec tout le monde. En Matthieu, nous voyons que la prédication de Jean se caractérisait par un ton très tranchant. Il disait, « Celui qui vient après moi séparera le grain de la paille et fera brûler la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. » Voyez-vous le message que Jean mettait l'accent sur le jugement de Dieu et non pas sur sa grâce. Il ne cessait de répéter qu'à l'arrivée du Messie, le jugement divin s'abattrait sur les pécheurs impétents. Or, Jean n'a rien vu de tout cela avec Jésus. Il n'a pas vu la paille prendre en feu. Il n'a rien vu en Israël qui aurait pu faire penser que Dieu était en train de juger les méchants. Au contraire, il entend dire que Jésus mange avec des publicains et des pécheurs. Le Messie peut-il réellement se comporter ainsi? Jean ne comprenait pas rien. Les manifestations du jugement de Dieu n'étaient pas simplement rendues au rendez-vous. Jean voulait maintenant des éclaircissements sur le ministère de Jésus. C'est alors qu'elle envoie ses propres disciples vers Jésus avec une question. Es-tu vraiment le Messie? Ou est-ce qu'on devrait attendre quelqu'un d'autre? En d'autres mots, elle demandait à Jésus, « Aide-moi à comprendre ce qui arrive. Tout ce que me raconte concernant tes actions ne correspond pas avec l'idée que je m'ai fait du Messie. Y a-t-il quelque chose que je n'ai pas saisi? » Jésus répondit à sa question avec beaucoup de tact. Il dit aux disciples envoyés, « Venez avec moi et observez mes œuvres. Ensuite, allez de nouveau vers Jean et vous lui raconterez ce que vous avez constaté à vos propres yeux. Dites-lui que les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, même les morts deviennent à la vie et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. » Puis Jésus ajouta une autre phrase. « Dites à Jean, heureux est celui qui ne se scandalisera pas de moi. » Curieusement, cette réponse ne semblait apporter aucun élément nouveau. Tout ce qu'elle contenait, Jean le Baptiste le savait. Tout le monde avait déjà entendu parler du ministère de Jésus. Tous les habitants d'Israël savaient que Jésus guérissait les malades et qu'il ressuscitait parfois les morts. Alors pourquoi Jésus répondit-il à Jean de cette façon? Jean le Baptiste a passé sa vie à étudier la parole de Dieu. Il la connaissait du bout des doigts. En donnant sa réponse, Jésus avait bonne confiance que Jésus comprendrait le sens de ses paroles. Jean allait comprendre que la réponse correspondait ni plus ni moins à une citation des trois passages du livre d'Isaïe. Tu n'as pas tout à fait compris les prophéties d'Isaïe concernant les œuvres du Christ. Si tu avais correctement saisi la signification de ces prophéties, tu n'aurais pas été scandalisé en moi. N'as-tu pas lu Isaïe? Si tu avais remarqué que ces prophéties correspondent justement à ce que je fais, tu n'aurais pas eu besoin de poser la question. Tu n'aurais pas été offensé par mes œuvres. Tu n'aurais pas vu que je suis en train d'accomplir les prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie. Alors que les disciples de Jean s'en allaient répandre leur maître, Jésus dit à la foule, est-ce que vous êtes allé voir un Jean-Baptiste? Avez-vous déjà noté la grandeur de la personne? Quand vous êtes allé au désert, qu'est-ce que vous êtes allé voir? Un roseau bayotte par l'avant? Un homme vêtu de vêtements élégants? Pas du tout. Vous êtes allé voir un prophète. Et laissez-moi vous dire que Jean est plus qu'un prophète. Jean le Baptiste est le plus grand de tous les prophètes. Il est même plus grand que tous ceux qui sont nés d'une femme. Voilà toute une affirmation. Elle a de quoi étonner tout lecteur de la Bible. Notre première réaction serait peut-être plus grand même que Moïse. Aux yeux du peuple juif, il n'y a personne qui puisse être plus grand que Moïse. C'est Dieu qui a dit à Moïse, je lui parle face à face. Il n'y a personne d'autre à qui je révèle aussi directement. Et pourtant, Jésus affirme que personne n'est plus grand que Jean le Baptiste. Essayons de réfléchir à cette question. Se pourrait-il que la grandeur de Jean réside dans les fonctions qu'il avait? Il n'y a aucun doute que le rôle que joue Jean par le Baptiste était unique dans le plan divin. Dieu l'a choisi pour être le messager qui devait préparer le chemin du Seigneur et appelant le peuple à la repentance. Tout reconnaissant tout cela une tâche de prime importance. Ainsi Jean n'était pas en soi une grande personne, mais les responsabilités qui relevaient de ses fonctions faisaient de lui une importante personne. Malheureusement, un tel raisonnement s'accorde mal avec la pensée biblique. Dans les Écritures, la grandeur d'une personne n'est jamais liée à la fonction qu'elle occupe. Nous n'avons qu'à prendre l'exemple des rois dans l'Ancien Testament. Parmi ceux qui y sont mentionnés, rares sont ceux que l'on pourrait qualifier importants aux yeux de Dieu. Autrement dit, le fait d'occuper une position royale ne fait pas automatiquement que vous êtes une personne de grande stature spirituelle. La Bible ne fait pas lien direct entre la fonction d'une personne et sa valeur spirituelle. C'est pourquoi on ne peut pas expliquer la grandeur de Jean le Baptiste par le privilège d'être celui que Dieu a choisi pour annoncer la venue tant attendue du Messie. Les Écritures contiennent de nombreux exemples dans lesquels le Seigneur a choisi le moindre d'une famille, d'un clan ou d'une nation. Ceux que le monde traite avec indifférence, ceux qui vivent en marge de la société, ce sont ceux-là que Dieu recherche. Dieu n'est pas attiré par les nobles et les puissants. Il préfère porter le regard sur ceux qui sont faibles, ceux qui sont doux et humbles de cœur. La grandeur d'une personne, du point de vue spirituel, ne dépend pas de ce qu'elle accomplit dans leur vie. Elle est plutôt associée à la qualité de leur vie spirituelle. C'est ce qui compte pour Dieu. Nous évaluons la valeur de Jean le Baptiste avec la mentalité du monde lorsque nous disons « Comment Jean peut-il être si grand ? » Il n'a jamais guéri de malades. Il n'a jamais fait de miracles. Car une telle réflexion présuppose qu'on doit faire de grandes choses pour être vu comme une grande personne. Je le répète à nouveau, la grandeur de Jean ne repose pas sur les œuvres qu'il a pu accomplir. La grandeur de Jean le Baptiste est fondée sur la qualité de sa personne. Alors, comment allons-nous comprendre tout cela? J'aimerais vous donner ici une clé qui va vous permettre de saisir le sens de ces versets. Si nous voulons bien comprendre l'enseignement de Jésus, il faut chercher à savoir ce qui donne de l'importance. Une personne dans le monde spirituel, par quoi se définit la grandeur spirituelle d'une personne? En quoi consiste la grandeur d'un être humain aux yeux de Dieu? Comment devient-on quelqu'un important pour le Seigneur? Voilà toute importante question qui se rattache à notre leçon. Les disciples ont un jour posé la question à Jésus. Qui est le plus grand dans le royaume de Dieu? Avec tout ce que nous venons de dire, vous connaissez maintenant la réponse. C'est le plus petit. C'est celui qui est humble. Ainsi, Jésus répondit à la question de ses disciples en disant, « Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Dans le royaume de Dieu, le plus grand est celui ou celle qui se fait le plus petit. Pourquoi en est-il ainsi? La raison est bien simple. Lorsque vous vous abaissez devant le Seigneur, Dieu vous relèvera grandement. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ceci est le point de départ de tous les grands du royaume des cieux. Que trouve-t-on entre le violet et le blanc, entre la pénitence et la fête, du rose, de la joie? Soyez dans la joie du Seigneur, soyez dans la joie, le Seigneur est proche. Lors de son Angélus, troisième dimanche de l'Avent 2003, Saint Jean-Paul II dit: savoir que Dieu est proche, attentif et plein de compassion, non indifférent, qu'il est un Père miséricordieux qui s'intéresse à nous dans le respect de notre liberté, avec motif d'une joie profonde que les aléas du quotidien ne peuvent atténuer. La caractéristique unique de la joie chrétienne est qu'elle peut être partagée avec la souffrance, puisqu'elle est entièrement basée sur l'amour. En effet, le Seigneur, qui nous est proche au point de se faire homme, vient pour communiquer sa joie, la joie d'aimer. C'est seulement ainsi que l'on comprend l'allégresse sérène des martyrs jusqu'aux épreuves, ou bien le sourire des saints de la charité face à qui souffre. C'est un sourire sans offense qui console. Cette semaine, que notre messe nous donne un effort de faire un sourire à tous, pas seulement dans l'Église soi-même, pas seulement dans le stationnement, pas seulement à la maison, pas seulement à nos proches, mais à tout que nous allons rencontrer cette semaine, spécialement ceux que nous considérons avoir fait du tort ou méprisé. Amen.